Présence.
L'heure mariale, l'enseignement.
Avec le père Régis Marie de la Tessonnière, chapelain du sanctuaire de Lourdes, nous revisitons le message de la Vierge Marie à Sainte Bernadette.
Voici qu'à partir de la huitième apparition, tout va changer. Bernadette montre alors un visage dur, un visage douloureux, un visage triste et surtout, elle va accomplir, Bernadette, des gestes incompréhensibles. Voici que, à genoux, Bernadette se rend au fond de la grotte et pire encore, elle va embrasser le sol pourtant sale et dégoûtant de cette grotte. Ensuite, Bernadette va gratter le sol. Dans son texte, elle écrit gratigner. Elle va gratter le sol, elle va essayer de boire une sorte d'eau boueuse. Elle nous dira qu'elle la recrachera par trois fois. Ensuite, Bernadette prend toute la boue, toute la gadoue, elle se barbouille le visage et les gens autour d'elle disent qu'elle est devenue folle et sa propre tante, Bernarde Castéro, qui est aussi sa marraine, pendant cette huitième apparition, devant les 350 personnes présentes, va la gifler et la traiter de petite merdeuse. Tout le monde est choqué, scandalisé par les gestes de Bernadette. Alors tout de suite après l'apparition, on lui dit « Mais ça va pas, qu'est-ce que tu as fait là ?» Bernadette répondra « Je n'ai fait que faire ce que la petite demoiselle m'a demandé de faire. » Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Bernadette précisera « Elle me disait « pénitence, 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 priez pour les pécheurs ». C'est la quatrième des huit paroles de Marie à Bernadette. « Pénitence, 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 priez pour les pécheurs ». Et en même temps, elle me disait « Allez à la source, boire et vous y laver ». C'est donc la cinquième parole de Marie à Bernadette. « Allez à la source, boire et et vous y lavez. » Que fait Bernadette ? Tout cela, je vous le raconte rapidement. Bernadette, donc à la grotte, à la demande de Marie, Bernadette accomplit alors un mime à la manière des anciens prophètes. Vous savez, le prophète, c'est l'homme de Dieu, le prophète. C'est l'homme qui parle de la part de Dieu, le prophète. C'est l'homme qui donne la parole de Dieu, le prophète. Et les prophètes ont parlé, parlé, beaucoup parlé. Mais les prophètes n'ont pas seulement parlé, ils ont aussi agi, ils ont aussi accompli des gestes symboliques, des mimes, pour dire leurs paroles, pour exprimer leurs paroles. Et Jésus, dont la Bible nous dit qu'il est le grand prophète, Jésus lui-même a annoncé sa passion trois fois, par la parole et une quatrième fois par le mime. C'est Saint Jean qui nous le dit. Après le dernier repas partagé avec les siens, Jésus retire son vêtement. Il nous tourne déjà vers l'heure de la croix où il sera effectivement dépouillé de ses vêtements. Ensuite, Jésus se met à genoux et lave les pieds de ses disciples. Jésus mime alors tout à la fois l'abaissement profond qui est le sien dans sa passion et surtout le sens profond de sa passion, de sa vie donnée pour tous, pour la purification de tous dans l'eau, jaillit de son côté transpercé. Alors ici à Lourdes, à la grotte, à la demande de Marie, Bernadette va d'abord mimer l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation ? Saint Paul nous le dit, l'incarnation c'est Jésus, le Fils de Dieu qui s'abaisse jusqu'à devenir homme. Parmi les hommes, voilà l'incarnation. Or, comme l'incarnation est le geste du plus grand amour de Dieu pour nous, Bernadette, à la grotte, à la demande de Marie, Bernadette embrasse le sol, pourtant sale et dégoûtant de cette grotte. Ensuite, Bernadette prend toute la boue, toute la gadoue, et se barbouille le visage. Bernadette, à la grotte, à la demande de Marie, mime alors la passion de Jésus. Souvenez-vous, le Vendredi Saint, le jour où l'Église célèbre la passion du Seigneur, nous entendons à l'office cette parole du prophète Isaïe qui nous parle du Messie, qui nous parle du Christ, qui nous parle de Jésus à l'heure de sa passion. Isaïe nous dit qu'il avait pris sur lui tous nos péchés. Et à cause de cela, en raison de cela, il n'avait plus visage d'homme, il n'avait plus figure humaine. Il était, nous dit Isaïe, comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir et sur son passage, les gens se détournaient. Et on s'est détourné de Bernadette. Ce jour de la huitième apparition, les 350 personnes qui entouraient Bernadette à la grotte ont pratiquement toutes témoigné, nous disant que le visage de Bernadette était insupportable à regarder en raison de la douleur. Et la plus jeune de ses tantes, Lucille Castéro, alors âgée de 20 ans, voyant toute cette souffrance sur le visage de Bernadette, a hurlé et elle s'est évanouie. Bernadette va accomplir les mêmes gestes donc pendant 4 apparitions consécutives, la 8e apparition, la 9e, la 10e, la 11e apparition. Je viens de vous raconter très brièvement la 8e apparition, c'était le 24 février. Le lendemain, 25 février, jour de la 9e des 18 apparitions. Vous avez donc compris qu'il y a 18 apparitions de Marie à Bernadette et que la 9e apparition, c'est donc au centre, au milieu. Ce jour-là, donc, 25 février, à la grotte, à la demande de Marie, Bernadette va à genoux jusqu'au fond de cette grotte. Elle embrasse le sol à peu près au même endroit, mais voici que ce sol n'est plus aussi sale et qu'il n'est plus aussi dégoûtant. Et voici que ce que Bernadette prend entre ses mains, ce n'est plus de la boue, ce n'est plus de la gadoue, c'est déjà de l'eau qui petit à petit deviendra pure, claire, limpide. Limpide, c'est le mot que Bernadette employait à Nevers pour parler à ses sœurs de l'eau de la grotte. Elle leur disait « limpide, comme l'eau de la grotte ». Voici donc que cette grotte contenait un trésor. Et quel trésor ? Une source. Et quelle source ? La source qui jaillit toujours aujourd'hui. Quand nous entrons à l'intérieur de la grotte, peut-être en avez-vous fait l'expérience, nous pouvons la voir jaillir, cette source, au fond un peu sur la gauche. Nous pouvons non seulement la voir, mais nous pouvons également l'entendre jaillir, cette source. Cette source qui a une importance considérable, au point que pratiquement depuis le début, l'eau en est canalisée d'un côté vers les robinets et de l'autre vers les piscines, pour que tous, multitudes dont nous sommes, nous puissions y avoir accès à cette source. Alors pourquoi cette source est-elle aussi importante ? Je vous le dis tout de suite, ce n'est que de l'eau banale. Cette eau n'a rien de magique, elle n'a rien de miraculeuse. Non seulement c'est de l'eau banale, mais encore de l'eau ici à Lourdes, il y en a partout. Il y a un peu plus de 40 ans, quand on a creusé pour construire la basilique souterraine Saint-Pédis, l'eau a jailli. Encore aujourd'hui, on la pompe, on doit la pomper. Quand on a creusé sur l'autre rive du Gave pour construire le nouvel accueil Notre-Dame, l'eau a également jailli. Et c'est pour cela qu'il y a devant ce nouvel accueil un bassin. Ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi pour se débarrasser de l'eau. De l'eau ici à Lourdes, il y en a partout. Et la source existait à la grotte avant Bernadette. On ne le savait pas, mais elle existait avant. Alors pourquoi cette source est-elle aussi importante ? En raison de son sens symbolique. Mais pour bien comprendre le sens profond de l'eau de la source, de l'eau de la grotte, il nous faut nous remettre dans la situation exacte de Bernadette. Bernadette, en effet, a connu d'abord la grotte, ensuite la boue et enfin la source. Nous, quand nous allons à la grotte aujourd'hui, nous voyons la grotte qui est un endroit propre, magnifique, et la source. La boue a disparu, du moins elle est ailleurs, je vais vous le dire. Donc, la grotte, la boue, la source. Je commence par la grotte. Cette grotte que nous connaissons représente symboliquement toute l'humanité et aussi chacun, chacune d'entre nous, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, notre propre cœur. Je le dis à la première personne, mais chacun peut se reconnaître. Dans mon cœur, en effet, il y a d'abord de la boue. Qu'est-ce que la boue de mon cœur ? C'est le péché. Qu'est-ce que le péché ? Je le dis de façon schématique. Le péché, c'est à chaque fois que nous mettons Dieu à la porte de notre vie. Le péché, c'est à chaque fois que nous excluons Dieu de notre vie. Nous pouvons faire ça, mais le drame, nous le comprenons, c'est que quand nous excluons Dieu de notre vie, nous nous coupons de celui qui est la source de notre vie. Voici donc qu'il y a de la boue, qu'il y a du péché dans mon cœur et toute la misère qui va avec. Mais dans mon cœur, dans le cœur de tout homme, de toute femme, il y a infiniment plus que cela, il y a une source. Et quelle est la source de notre cœur ? C'est la présence même de Dieu en nous. Tous, hommes et femmes, tous, même ceux qui ne le savent pas, nous portons en nous la présence mystérieuse, mais la présence de Dieu en nous. Cela nous est dit par la toute première page de la Bible. Tous, hommes et femmes, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tous nous portons en nous cette présence mystérieuse de Dieu. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes baptisés, nous portons cette même présence de Dieu en nous, mais c'est alors une présence sacramentelle. Je vous rappelle qu'un sacrement, c'est la présence réelle du Seigneur, c'est la présence certifiée, la présence authentifiée du Seigneur. Un sacrement, pourrait-on dire, c'est le Seigneur qui nous dit « c'est moi, c'est vraiment moi ». Alors quand nous accomplissons donc ce geste de boire et de nous laver avec l'eau de la source, ici à Lourdes, nous sommes renvoyés à la présence de Dieu dans notre cœur. Nous sommes renvoyés à la présence de Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit dans notre cœur. Nous sommes renvoyés à la présence de Dieu, amour, en notre cœur. Quand j'accomplis ce geste de boire et de me laver avec l'eau de la source, ici à la grotte, je suis renvoyé d'abord à la présence du Christ dans mon cœur. Baptisé, nous dit saint Paul, nous sommes baptisés dans le Christ, dans l'eau jaillie de son côté transpercé. Quand j'accomplis ce geste de boire et de me laver avec l'eau de la source, ici à la grotte, je suis renvoyé ensuite à la présence de l'Esprit Saint dans mon cœur. Saint Paul, toujours lui, nous dit à propos du baptême et des sacrements que l'Esprit Saint est alors répandu en nos cœurs, littéralement versé comme on verse un liquide. C'est ce que Jésus dira à la Samaritaine, vous vous souvenez, cette femme avec laquelle il dialogue au bord du puits de Jacob en Samarie. Jésus lui dit « L'eau que je mets maintenant dans ton cœur deviendra en toi source jaillissante en vie éternelle, source jaillissante pour la vie éternelle. Enfin, quand j'accomplis ce geste de boire et de me laver avec l'eau de la source ici à la grotte, je suis renvoyé à la présence de Dieu le Père dans mon propre cœur. Dieu le Père dont saint Paul, toujours lui, nous dit qu'il est la source de toute paternité, de toute origine. » Vous voyez, quand nous accomplissons ce geste de boire et de nous laver, nous sommes avec l'eau de la source ici à la grotte, nous sommes renvoyés à la présence de Dieu en nous. Mais il ne faut jamais oublier le geste premier de Bernadette. Bernadette a commencé par boire de l'eau boueuse, hein, elle nous dit qu'elle a même recraché par 3 fois avant d'avoir accès à l'eau pure, claire, limpide. Voici pourquoi quand j'accomplis ce geste, je le dis encore à la première personne, mais chacun peut en faire de même, quand j'accomplis ce geste de boire et de me laver avec l'eau de la source, ici à la grotte, en même temps je dis dans le secret de mon cœur, Seigneur, je suis un pauvre homme. Aujourd'hui je n'ai pas encore fait le bien que je voudrais, et j'ai déjà fait tant de fois le mal que je ne voulais pas. Oui, Seigneur, je suis un pauvre homme, ma vie est un échec, un jour je vais mourir. Mais en même temps, par ce même geste de boire et de me laver avec l'eau de la source ici à la grotte, je peux dire, et je dis dans le secret de mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, car tu as mis en moi ta propre vie, dont un jour je vivrai pleinement, dont un jour je vivrai éternellement. Vous voyez le sens profond de l'eau de la source ici à Lourdes, qui nous renvoie à la présence de Dieu en notre cœur. C'est un signe. Voici pourquoi, quand Bernadette était à Nevers, vous savez qu'elle était à la fois malade, infirmière, et que les sœurs avaient de l'eau de Lourdes par-devers elles, donc à Nevers. Un jour, une sœur demande à Bernadette « Combien d'eau de Lourdes faut-il donner à une autre sœur malade ?» Bernadette répondra « Une goutte suffit. » C'est un signe qui nous renvoie à la présence de Dieu en chacun de nos cœurs.
Le Père Régis Marie de la Tessonnière.
Oh, présence à Saint-Céré, 95.8.
L'heure mariale, la merveille de Lourdes.
Nous sommes en 1982. De son lit, Lucie Coutaz regarde l'abbé Pierre et, d'un geste, lui dit au revoir. Tout comme elle, il sait qu'elle vit ses derniers jours, qu'elle se prépare au dernier voyage, celui des grandes vacances. Il doit partir à Rome en ce mois de mai 1982 et elle ne souhaite pas qu'il change son calendrier pour elle. Cela fait 40 ans qu'elle est sa secrétaire, 40 ans qu'avec lui, elle est au service de ceux qui souffrent. Elle le regarde partir avec affection. Lucie se souvient encore de la première fois qu'elle a vu l'abbé. C'était à Grenoble, pendant la guerre. Leur ami commun, le père Henri de Lubac, lui avait parlé d'elle et il était venu la rencontrer à son travail à l'office social de renseignement rue de Belgrade. À cette époque, l'abbé aidait des juifs et des recherchés à passer en Suisse. Il éditait également un bulletin pour les jeunes qui avaient pris le maquis, l'Union patriotique indépendante. Elle l'avait reçu le soir même chez elle avec, par mesure de précaution, l'un de ses amis, un géant d'1m98 qui se préparait à prendre le maquis sous le nom de Petit Louis. Dès ce jour-là, elle était devenue tout naturellement la secrétaire du bulletin qu'elle tapait et polycopiait. Après la visite du général Descours, l'abbé avait rejoint la résistance organisée et le bureau de la rue de Belgrade était devenu l'un des nœuds de l'information pour la résistance locale. Une drôle d'époque où elle avait eu beaucoup de chance de ne pas être arrêtée. Depuis, elle n'avait plus quitté l'abbé Pierre. Ce dernier voyage, elle n'en a pas peur. Elle souffre et attend la délivrance avec d'autant plus de joie qu'elle va enfin voir celui qui l'accompagne depuis tant d'années. Ce compagnon qui leur donne à tous, dans la communauté d'Emmaüs, la force d'agir chaque jour. Celui qui, avec eux, en eux, accueille, soigne, aide et redonne espoir à tous ceux qui frappent à la porte de ces foyers qu'elle a créés avec le pape des pauvres. Le dernier voyage. Elle se souvient du premier, si pénible. Celui dont elle a si peu parlé pendant toutes ces années, mais qui l'a accompagnée chaque jour. À l'époque, elle n'était pas encore la Lulu de l'abbé, celle que ses compagnons ne trouvaient pas commode, mais en qui tous reconnaissaient la poigne d'un chef. Non, à cette époque, elle était la pauvre petite fille d'un cantonnier dans le village de la Trinité, en Savoie, couchée sur une planche toute la journée, comme en ce moment, immobilisée par le mal de pote qui lui bloquait les vertèbres. Son seul passe-temps était alors de broder les habits liturgiques confectionnés par ses amis de la paroisse ou des motifs pour la charcutière du village. Ses amis, elle leur devait tout. C'était elle qui, sur l'idée d'un paroissien, lui avait offert ce pèlerinage à Lourdes qui allait chambouler sa vie. Elle s'était cotisée pour qu'elle puisse aller chercher sa guérison au lieu de l'attendre en priant. Elle lui avait même donné de l'argent de poche, Lucie en rit encore. Le voyage en lui-même avait été atroce. C'était le 8 septembre 1921, jour de la nativité de la Vierge. Elle était restée debout presque toute la journée. Partie à pied à la gare, elle avait fait les trois quarts du voyage sans pouvoir s'allonger car les organisateurs du pèlerinage avaient oublié de lui installer une planche. Et arrivée à Lourdes, ils étaient allés directement à la messe où elle avait dû communier debout. Elle se souvient de cette première nuit. Elle avait glissé des biscuits sous son lit, mais n'avait eu ni le courage ni l'envie d'en manger. Le lendemain et le surlendemain, elle avait suivi le parcours habituel, la piscine, la grotte, la procession du Saint-Sacrement. En voiture, bien entendu, avec des rallonges pour les jambes, car la position assise la faisait trop souffrir. Un des brancardiers de la paroisse Saint-Bruno, sa paroisse, était très gentil et plaisantait avec elle. Parmi les malades et les handicapés qui l'entouraient, beaucoup revenaient de la guerre. Elle était pratiquement la seule femme malade du groupe. Le troisième jour, en sortant de la piscine, elle avait senti quelque chose. Non pas qu'elle était guérie, mais une impression de bien-être, une impression de paix, qu'il avait envahi, lui faisant oublier ses souffrances. Cela devait se voir, car le brancardier l'avait regardée avec étonnement quand elle avait rejoint sa voiture. Le soir, elle l'avait raconté au médecin. Le mal l'avait cependant déjà reprise. Il l'avait traitée de sotte et lui avait dit que la Vierge Marie finirait le travail le lendemain. C'était peut-être une boutade, mais il n'avait pas tout à fait tort. Le lendemain, après son aller-retour dans l'eau de la source et le baiser à la Vierge, lorsqu'elle était ressortie de la piscine, elle avait eu de nouveau le même sentiment. Échaudée par la veille, elle n'était néanmoins pas sûre d'être guérie. Pourtant, elle avait fait le tour de la grotte seule, en marchant et sans souffrir. Elle se souvient encore des visages de ses compagnons. Depuis la veille, la rumeur courait qu'elle était guérie, et tous la regardaient avec joie et étonnement. Pour être certaine de sa guérison, Lucie avait demandé à une amie de la faire passer en voiture sur une petite rigole du chemin de la grotte. Une petite rigole de rien du tout, mais qui, à cause du choc des roues, la faisait énormément souffrir à chaque passage. Plus rien. Plus de souffrance au moment du sursaut. Son dos n'accusait plus le coup. Plus de tressautements douloureux dans son corps, seulement un grand tressaillement dans son cœur. La guérison était là, maintenant. Elle en était sûre. Cette petite rigole, elle y repense souvent quand elle contemple les deux statuettes posées sur sa table de nuit, celle du Christ flagellé et celle de Notre-Dame de la Salette en larmes. Au souvenir de sa douleur et de sa délivrance, elle prie pour tous ceux qu'elle a accueillis durant ses 40 années aux côtés de l'abbé Pierre, depuis Georges, le premier compagnon d'Emmaüs. Bientôt, elle reposera auprès de lui, elle l'espère, sous la prairie d'Esteville, à l'ombre des bras du grand Christ couché.
Présence. Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
16 juillet 1858, Bernadette voit Marie pour la 18e et dernière fois. De toutes les apparitions, c'est celle-ci qui, à mon sens, manifeste avec le plus d'éclat ce qu'est réellement le phénomène Lourdes. Le choc incommensurable entre l'univers visible et l'univers invisible. Et pour cause, ce jour-là, Bernadette voit distinctement Marie dans la grotte, malgré la distance qui les tient éloignées l'une de l'autre. Elle reçoit cette apparition depuis la prairie, de l'autre côté du gave, et voit précisément Marie dans la grotte malgré l'obstacle matériel qui aurait dû rendre la vision impossible. Je veux parler de la palissade qui avait été érigée devant la grotte pour en empêcher l'accès. Malgré la barricade, Bernadette voit Marie, plus belle que jamais. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que Lourdes, c'était ça, une réalité du ciel et de la terre. Épître aux Hébreux 11, 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible.
Ce récit est extrait du livre « Lourdes, ambassade du ciel » de Laurent Jarnot aux éditions du Toucan.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Une balade, une chanson, une émission. Elric Fabre-Meynier vous convie à un moment de poésie et de chanson. Régalez-vous les oreilles, c'est le moment de goûter aux mots et à leur mise en beauté.
Chansons de poètes, tous les samedis à 16h30.
Une émission Radio Présence.